J'aimerais ce soir continuer sur Jésus, fils de l'homme. Si vous vous souvenez, la dernière fois, ça remonte à peu près à un mois, et comme vous avez une super mémoire, sinon il y a un truc qui s'appelle add31100.fr où vous pouvez retrouver tous nos messages, nos cultes, nos enseignements sont dedans. Et réécouter tous nos messages, encore et encore et encore. Vous bercez la nuit, le jour avec, prendre les transports, écouter encore ces beaux messages partagé par tous nos frères et prédicateurs. On parlait donc de Jésus, fils de l'homme. On disait en conclusion que Jésus était tout pleinement Dieu, mais il était aussi tout pleinement homme. Et souvent, on regardait et on se focalisait sur Jésus, Dieu, et on minimisait ce côté de cette nature humaine de Jésus. Et les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avait relevé ces points de Jésus où Jésus pleurait, où Jésus avait faim, où Jésus était fatigué, où Jésus était en colère, où Jésus, en fait, les évangélistes mettaient en lumière, enfin, rapportaient le fait que Jésus vivait aussi avec les limitations humaines. Cet homme-là, il était tout pleinement Dieu et tout pleinement homme. La conclusion était dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cette nature humaine nous permettait de réaliser à quel point aussi Dieu était accessible. Et ce n'est pas un Dieu, Jésus fait homme, qui montrait une apparence parfaite, mais qui montrait aussi ses limitations humaines. J'aimerais prendre ce soir pour le texte d'introduction l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Et au verset 17. Vous y êtes? En conséquence, il a dû être, Jésus-Christ, rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, verset 18, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La version Semeur dit, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans les domaines des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Ce texte ressemble un petit peu au passage de Hébreux 4. Si vous regardez, en fait, finalement, tout ce qui se passe dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous révèle en fait tout le côté de Jésus, souverain sacrificateur, qui est venu expier le péché pour nous, hommes. Et ce côté humanité, Jésus, Dieu, fait homme, est venu sur la terre, rendu semblable à nous, ses frères, avec nos limitations. Pourquoi ? Pour expier nos péchés. Et je pense que si vous êtes là, c'est parce qu'un jour vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Vous avez cru qu'il est descendu sur la terre des hommes, mourir sur le bois de la croix, donner sa vie, ressusciter le troisième jour. Que vous l'ayez cru ou que vous l'ayez eu en révélation, ou les deux. Je pense que parfois on arrive et on minimise souvent l'œuvre de la croix. Et souvent on dit, mais oui, j'entends souvent des messages encore, on parle de la croix. Encore Jésus mort sur la croix. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai donné ma vie. Pourquoi j'entends encore des enseignements sur le message de la croix? Jésus est mort sur la croix. On le répète encore dimanche après dimanche. On le répète, on lit des textes aussi par rapport à ça. Lorsque nous prenons la Sainte Cène, on prend le pain, on prend le vin, on se remémore encore l'œuvre de la croix. Jésus mort sur la croix. Et parfois, peut-être, on se dit religieusement ou par habitude, encore la croix, la croix, la croix. Je sais, je connais par cœur. J'ai grandi dans l'église même. Je l'ai entendu au GIB, je l'ai entendu au club des ados, je l'ai entendu à la jeunesse, je l'ai entendu, ça fait des années que je marche avec Dieu. Je sais que Jésus est mort sur la croix. Et pourtant, l'œuvre de la croix, c'est central. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce chemin tracé de nouveau. C'est ce qui nous a permis de faire un changement de direction à 180 degrés. La destination finale qui était l'enfer s'est transformée en un chemin d'espérance. Jésus-Christ, le paradis, le salut. Et l'aspect principal de la croix qui est très vrai, c'est le fait que Jésus soit mort, cloué sur le bois, que son sang a été versé pour l'expiation de notre péché et qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais si on se tourne vers notre professeur de sotériologie, qui est en fait notre pasteur, où ce cours, c'est 25 heures, si mes souvenirs sont bons, c'est 25 heures de cours parlant de la croix. Vous imaginez? Et nous, dans nos demi-heures ou 40 minutes où on parle de Jésus mort sur la croix, on en a déjà assez, alors qu'en fait, c'est une grande richesse. On minimise l'œuvre de la croix. Parce qu'on s'est dit, je connais par cœur l'histoire. Vous savez, c'est comme quand on connaît l'histoire de David et de Goliath. On sait que David a pris 5 cailloux. Il a jeté le caillou sur la tête de Goliath, un vrai sniper. Et puis Goliath est tombé. Et puis victoire. Mais il y a plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de méditer la parole de Dieu. C'est pour pas intellectualiser les choses, mais c'est pour se poser et vivre ces choses-là et réaliser encore plus ces choses-là. C'est pour ça, quelque part, que j'aime la série qui a été faite sur Jésus dernièrement avec The Chosen, où, lorsqu'on regarde un épisode qui dure 40-45 minutes, l'histoire est illustrée. Pas forcément exacte, mais l'histoire est illustrée. Et on peut voir, quand on parle de l'humanité du Christ, un Jésus qui a pleuré, un Jésus qui était plein de bonté avec ses disciples, un Jésus qui était là. Et aussi, on peut voir aussi les disciples qui se disputaient entre eux, qui se comparaient, qui étaient en rivalité, et toute la nature humaine qui était là. Mais pendant, là, les 7 saisons qui ont été annoncées, on regarde ces choses en détail et on prend le temps. Et ce soir, je veux prendre le temps de voir un peu ce que c'est que l'œuvre de la croix. Peut-être que pour vous, l'œuvre de la croix s'arrête à Pilate a condamné pour faire plaisir au peuple et aux religieux de l'époque Jésus. Et qu'il a été cloué pendant 6 heures. Et qu'ensuite on l'a mis dans un tombeau. Et que le troisième jour, la pierre a été roulée. Et qu'il a été ressuscité. Et on pourrait juste s'arrêter là. Mais l'œuvre de la croix, ça a impliqué un Dieu qui s'est rendu à tous égards, semblable à ses frères. Si je dois quelque part résumer les 4 évangiles, juste pour relever quelques faits, c'est un Dieu qui s'est fait homme, s'est incarné, avec nos limitations humaines, je le répète encore et encore et encore, qui s'est montré proche de ses hommes et de ses femmes, qui a connu la souffrance incompris de ses proches, incompris de sa famille, incompris de ses semblables. Vous êtes déjà senti incompris? Vous êtes déjà senti seul? Jésus vous montre, au travers de l'Évangile, que lui aussi a vécu cette solitude, que lui aussi, il était incompris. Lorsqu'il enseignait ses disciples, lorsqu'il enseignait son peuple, où tout le monde croyait que le héros, le sauveur, le Messie, c'était celui qui allait venir délivrer le peuple hébreu comme eux l'avaient imaginé. Pour certains, Jésus, c'était le héros qui allait les sauver de l'Empire romain. Pour d'autres qui encore allaient dire, c'est bon, on a le Messie, on va devenir les champions du monde. On va montrer encore aux autres peuples c'est qui les meilleurs. Pour d'autres encore, Jésus, le Messie, c'était le guérisseur, celui qui a apporté la délivrance et la guérison. Pour d'autres, Jésus, c'était celui qui venait apporter et répondait aux besoins des gens les plus nécessiteux. C'est quelque part, non, c'est même très vrai pour les dernières choses. Mais personne n'avait compris le Jésus qui devait mourir sur la croix, périr et souffrir. Il a vécu l'incompréhension. Il est celui qui a vécu, lorsque l'Épître aux Hébreux l'a relevé, éprouvé en toutes choses, la faim. Il a vécu des combats spirituels. Vous en vivez ? Les tentations. La même tentation d'abandonner, alors qu'il était si proche du but, dans le jardin de Gethsémané. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Les moments de doute, les moments où on a envie d'abandonner, parce que c'est trop dur. Ça vous est arrivé ? Les moments de doute, les moments où on a envie de tout lâcher et d'abandonner, parce que c'est trop dur. Les moments où même pendant 3 ans, des gens l'ont suivi, ils ont été témoins de miracles et de prodiges. Ils ont goûté à l'amour du Christ. Ils ont été au bénéfice. Et puis, lorsqu'ils n'ont pas compris que Jésus devait mourir sur la croix, ils l'ont laissé seul et sont partis. Abandonnés des siens. Ce Jésus a vécu l'abandon des siens. Vous êtes vous aussi, senti abandonné des vôtres, membres de la famille, amis, collègues, ceux sur qui vous avez compté, ceux sur qui vous aviez tant d'attentes, croyant que c'était pour vous les meilleurs frères, les meilleures sœurs, les meilleurs amis du monde entier, les BFF, best friend forever. For life, pour toujours. Et auxquels finalement ils nous ont déçus parce qu'ils nous ont lâchés au moment où on attendait peut-être beaucoup d'eux. Jésus sait ce que tu as ressenti parce que lui-même l'a vécu. Il a été rendu semblable à tous égards comme nous. Et toutes les souffrances par lesquelles tu as pu vivre. Nous qui passons par des épreuves et que lorsque nous passons par les épreuves, nous sommes dans la plainte. Il a dit, mais de toute façon, tu ne peux pas comprendre. De toute façon, tu ne peux pas comprendre l'épreuve par laquelle je passe. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Et puis même quand on arrive à Dieu, il dit, mais Seigneur, non, mais ma souffrance, elle est trop grande. Mais lorsqu'on prend le temps de lire la Bible, ou même lorsqu'on prend le temps de considérer le chemin de Jésus, on comprend qu'en fait, les chemins par lesquels nous sommes passés, nous passons, il est passé. La solitude, l'incompréhension, le rejet, l'injustice. Lui tout pleinement innocent a été accusé à tort pour mourir. Il n'a pas payé une amende. Il n'a pas été en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a été condamné à mort, lui innocent. Mais la vie est injuste, c'est dur, je n'ai pas eu la promotion. La vie est injuste, il ne m'arrive que des malheurs. Jésus a vécu l'injustice. Il a été mal jugé. Tout ça pourquoi ? pour plaire à des hommes, parce qu'il y avait des questions politiques, parce qu'il ne fallait pas du grabuge. Alors il fallait faire ce que le peuple demandait. Et dans tout ça, il fallait le bouc émissaire, ou retransposer l'agneau de Dieu. Il a été humilié. Les gens l'ont craché dessus. Les gens l'ont traité comme rien. Les gens l'ont méprisé. Mépriser, c'est considérer comme rien. Si tu crois que dans ta vie, tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu, fais comme Emmanuel l'a dit, prends la parole de Dieu et dis-toi que Dieu est en train de te dire que tu es une créature si merveilleuse. Mais Jésus a été méprisé. Alors que les gens ont vu et ont été au bénéfice des prodiges et des miracles. Jésus le Sauveur, Jésus a ressuscité les morts, Jésus a rendu la vue aux aveugles. Mais ça, on l'oublie vite, parce qu'au moment de l'épreuve, au moment où il y a des enjeux qui nous sont personnels, on oublie tout ça. On oublie ce que ça signifie l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'on se contente juste de dire « Jésus est mort et ressuscité, je suis sauvé. Et puis j'ai le salut. » Mais la valeur du salut est peut-être plus petite que mon besoin et mon épreuve actuelle. Alors que le salut, c'est ce qu'il y a de plus éternel. Et on minimise l'œuvre de la croix parce qu'on n'a pas considéré ce que ça veut dire, tout ce cheminement de Jésus. Du ciel à la terre, de la terre à la croix. La croix au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, si je dois continuer le chant. Jésus a vécu toutes ces choses, donc il est plus à même de compatir. Comme le dit dans ce verset, il est plus à même de devenir ce grand prêtre plein de bonté et de confiance. Parce que lorsque tu passes dans l'épreuve, il n'est pas là pour te dire « bien fait ». Il n'est pas là pour te dire « reste dans ton coin ». Il est en train de te dire « je sais ce que tu vis en ce moment. Je connais ton épreuve. Je sais par quoi tu passes. Je suis passé par là. Je suis plus à même de te comprendre plus que n'importe qui. Non pas parce qu'on a dit ou on a enseigné ou prêché le fait que Jésus est omniscient, même si c'est vrai. Mais là, l'Évangile nous rapporte le témoignage d'un Jésus qui est au plus proche de nous à ce niveau-là. Donc, à plus forte raison, il est celui qui, comme le dit, lui-même éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés, c'est-à-dire nous. Frères et sœurs, je veux juste nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous nous sentons seuls parce que la situation nous fait penser et nous fait centrer sur notre souffrance et notre douleur. C'est notre nature humaine, nous sommes comme ça. Mais Dieu essaie de te dire, lève-toi et regarde. Regarde par quoi je suis passé. Lève-toi et vois les clous sur ma main. C'est le signe du fait que j'étais humilié, injustement jugé, maltraité, rejeté, incompris de ceux que j'ai aimés. Parce que nous sommes l'objet de l'amour du Christ. Si Jésus est mort pour nous, c'est par amour pour nous. Et ceux qu'il a aimés l'ont rejeté. Et une de ses prières, c'était de dire à son père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients. Et ô combien parfois nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons, quand nous rejetons Dieu, quand nous croyons très fortement qu'il n'est pas avec nous. Nous sommes tellement dans l'incompréhension. Mais Seigneur, si tu étais vraiment, si vraiment tu es un Dieu d'amour, tu m'aurais secouru. Quelque part, à notre image, on aurait voulu que si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, il aurait secouru son fils et l'aurait enlevé de la croix, ou alors il aurait fait de lui un super-homme, et puis tout le monde aurait dit « Jésus, Jésus, Jésus », et tous les peuples se seraient convertis. Mais le but de la croix, c'était que nous soyons rachetés, car il y avait une justice au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce n'était pas la justice humaine, c'était la justice de Dieu, qui ne pouvait être satisfaite que par le sang d'un innocent, Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme. Lorsque nous passons par l'œuvre de la croix, lorsque nous passons par des épreuves, souvenons-nous de l'œuvre de la croix. Oui, qui nous a ouvert le chemin du salut, et c'est un fait. Et c'est déjà d'une très, très, très grande valeur. Mais ce chemin de la croix, ça a aussi cet aspect de toutes les souffrances par lesquelles le Christ est passé. Et j'en ai nommé que quelques-uns. Mais si on passait notre temps encore à méditer dessus, vous verrez encore bien d'autres choses. Maintenant, ressuscité, vous connaissez ce verset qui dit « Entre Dieu et les hommes, il y a un médiateur ». Vous savez qui ? Je vous propose de le lire ensemble. 1 Timothée, chapitre 2, et juste le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et souvent, on s'est juste arrêté à dire Jésus-Christ. Mais le mot juste après, c'est quoi ? D'où l'importance de Jésus-Christ, fils de l'homme. Le médiateur entre Dieu, le seul unique, et nous les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. La suite du verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, cette justice qui nous dépasse. Nous qui étions pécheurs, Jésus-Christ a payé la rançon pour que nous soyons libérés, délivrés de cette destinée qui nous menait en enfer pour aller dans le paradis, le chemin du salut. C'est pour cela que, entre autres, Jésus, fils de l'homme, c'est important. Connaissez-vous le contexte de ce verset? C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Et juste avant, en fait, il dit à Timothée, « Mais j'exhorte tout homme à prier. Prier pour ceux qui nous gouvernent. Prier pour tous les hommes. Prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous qui sommes sauvés et nous qui avons reçu ce nouveau mandat, c'est de faire comme Jésus-Christ aussi. Jésus-Christ, c'est le médiateur entre le seul Dieu et les hommes. Mais nous sommes appelés à suivre son exemple, à prier, intercéder, pour le gouvernement, pour les projets, pour l'église locale, pour notre ville, pour nos membres de la famille, pour tous les perdus, pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous ne sommes pas là juste pour profiter de la vie en attendant que le ciel arrive ou que nous allions au ciel. Nous sommes là aussi pour, parce que nous avons un nouveau mandat. C'est l'héritage de Jésus-Christ. Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça commence aussi par prier. Et c'est pour cela que nous venons les mardis soirs. C'est pour cela qu'il y a des jeûnes et prières le 27, samedi, 12h30, pour mener le combat. Parce que Dieu nous a confié des personnes, nos enfants que nous avons au GIB, les ados que nous avons au club des ados, les jeunes que nous avons aux jeunes, les différentes personnes qui viennent dimanche après dimanche, même les mardis parfois. Prions, amenons-les au trône de la grâce. Parce que nous sommes le fruit de la prière de Jésus. Nous sommes le fruit des gens qui ont prié et qui ont compris cela, et qui étaient capables de souffrir, qui ont perdu parfois pour eux la vie. Si vous continuez la vie dans les actes, et même dans l'histoire à côté, vous voyez qu'en fait les 12 disciples n'ont pas forcément très bien vécu une vie prospère sur le plan humain. Il y en a qui sont morts, de notre point de vue, prématurément. Ils ont donné de leur vie pour nous donner cet héritage de l'amour du Christ qui sauve encore aujourd'hui. Alors faisons-le, prenons le temps, prions. Ok, nous avons des problèmes. Seigneur Jésus, tu es plus grand que ces problèmes. Mais j'ai la vie éternelle, j'ai le salut. À côté de moi, ceux qui prospèrent, ceux qui sont meilleurs sur d'autres aspects, eux n'ont pas la vie éternelle. Si nous, on part, nous, on est sauvés pour l'éternité. C'est quoi notre vie sur terre? 70, 80, 90 ans, 100, 150? C'est quoi 150 ans par rapport à l'éternité? À côté de moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée est en train de mourir. Mes proches, ce que Dieu m'envoie, il est en train de mourir. C'est ça l'œuvre de la croix. Et nous sommes l'héritage de cette œuvre-là. Prenons vraiment ce temps pour ne pas considérer non pas nos intérêts ou notre condition, mais à considérer l'intérêt de Dieu. Parce que c'est pour notre intérêt que Jésus-Christ est mort. C'est par amour pour nous et pour nous sauver. Et notre moyen, quelque part, d'exprimer notre reconnaissance, c'est de louer Dieu. C'est vrai, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais c'est que tous, comme il le dit, arrivent, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'il est aussi mort sur la croix. Que nous puissions persévérer dans ce mandat, même si parfois c'est difficile, même si parfois il nous faut, nous sommes tentés d'abandonner. Mais c'est Dieu qui ne nous laisse pas seuls. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Prions ensemble et prenons le temps, que nous soyons timides ou pas. Relevons le défi. Prenons les choses en main. Prions pour notre campus universitaire. Prions pour nos collègues de travail. Prions pour notre lieu de travail. Prions pour les pradettes. Prions pour tout. Pour les enfants. C'est un enjeu aussi. Dieu nous les a confiés. Que nous puissions faire notre part. En élevant notre voix, en priant, en intercédant, en remettant au trône de la grâce ses bien-aimés. Seigneur Jésus, combien de fois me suis-je focalisé sur mes soucis, sur ma souffrance, sur ma plainte, sur ma solitude, sur mes incompréhensions, sur tant et tant de choses qui, peut-être c'est vrai, sont là et sont une réalité. Mais Seigneur, combien de fois je voudrais méditer, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de la croix et toutes les choses qui s'y rapportent, Seigneur mon Dieu. Le fait que tu t'es fait homme, Seigneur mon Dieu, par amour pour nous, pour mourir sur la croix, que tu aies vécu toutes ces souffrances, tu es celui qui est le plus à même de nous comprendre, Seigneur. Et je te remercie. Je te remercie de tout notre cœur, parce que nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Tu es celui qui nous comprend plus que tout. Seigneur mon Dieu, c'est pour ça que tu peux pourvoir, nous secourir à nos besoins, Seigneur Jésus. Merci. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu as fait avec l'œuvre de la croix, en mourant, Seigneur mon Dieu, c'est de nous donner cet héritage, que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais Seigneur mon Dieu, aussi ta volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés, Seigneur. Alors je t'en prie, aide-nous à prendre notre place dans la prière, qu'on soit timide ou pas, que nous ayons tous ces raisonnements dans nos têtes qui fait qu'on ne prierait pas ou notre condition même physique entre fatigue, flemme ou je ne sais, Seigneur mon Dieu. Toutes raisons qu'on peut évoquer devant toi. Seigneur mon Dieu, la vie éternelle est devant nous. C'est un enjeu primordial. Et Seigneur, je veux en avoir tout pleinement conscience. parce que mon bien-aimé et ma bien-aimée, Seigneur Dieu, ce que tu nous as confié, ce que tu mets sur notre chemin, au campus universitaire, dans notre lieu de travail, dans notre foyer, nos membres de la famille, Seigneur mon Dieu, sont perdus. Alors je te prie d'avoir les paroles à propos. Je te prie de nous donner, Seigneur mon Dieu, de les aimer, même si parfois ils nous persécutent, même si parfois ils ne sont pas de bonne compagnie. Seigneur mon Dieu, sauve-les. Sauve ce gouvernement. Sauve ce pays. Sauve ceux qui sont élevés en dignité. Sauve, Seigneur mon Dieu, ces gens qui sont là et qui sont perdus. Viens nous aider à les rencontrer et à parler de toi. Viens nous aider à porter ta parole, Seigneur mon Dieu. Viens nous aider à accomplir ce que toi tu voudrais qu'on accomplisse. Éternel Dieu, merci. Parce que nous qui sommes là, nous qui pensons que nous sommes insignifiants, nous sommes de la valeur et tu nous appelles à collaborer avec toi dans cette œuvre si grande. La moisson est grande et les ouvriers sont si peu nombreux. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson afin que la moisson soit encore plus grande. Merci pour tout Jésus. Merci pour tout mon Dieu. Amen.